Il est 9h42 sur France Inter, dernier instant M de la semaine.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Émission raccourcie aujourd'hui, le jeu du vendredi que vous réclamez à corps et à cri, et l'ami Vandel. Salut Philippe.
Salut.
Et puis je laisse ma place au médiateur des antennes de Radio France qui vous écoute et qui vous entend. Vos questions sont nombreuses, un billet d'humour vous a particulièrement fait réagir ces derniers jours et vous vous interrogez également sur la façon dont France Inter couvre la présidentielle. Bonjour Bruno Denas.
Bonjour Sonia Demiller, bonjour à tous.
Voilà, vous avez convié pour répondre aux auditeurs notre directrice Laurence Bloch ainsi que Frédéric Mettezo, chef du service politique de France Inter. On les écoute dans quelques minutes.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Alors, l'Instant M bat sa coulpe. Voici deux semaines que vous êtes privé de Madeleine. La mort de Pierre Bouteiller d'abord, émission spéciale. Et puis, je recevais la semaine dernière les deux journalistes de TF1 animant le premier débat d'avant scrutin. Ça nous laissait peu de place. J'ai lu tous vos messages râleurs, il y en avait quand même de très très drôles, je sais pas vous.
Ah, vous aussi vous avez des,
oui,
messages,
des messages râleurs, mais j'en ai de très très drôles. Les auditeurs de l'Instant M sont très comiques. Retour aux choses sérieuses. Donc ce matin, vous vous approchez de votre boîte mail, prêt à m'envoyer une réponse à l'adresse suivante: l'instantm@radiofrance.com, l'instantm@radiofrance.com. Et moi je vous offre deux CD édités par Lina, extraits des radioscopies de Jacques Chancel. On vous a choisi ces interviews d'écrivains, Salon du Livre oblige, Yourcenar, Romain Gary, Frédéric Dard, Elie Wiesel, Claude Lévi-Strauss, ça fait très très envie. Voici ma question. Vous allez entendre un acteur français bien connu de la télévision dans un feuilleton, lui aussi bien connu de la télévision. Il y jouait le mari, mais de quel feuilleton s'agissait-il ?
Au départ, c'est un feuilleton américain qui s'appelle Maud. Mmh. Mais on a très peu utilisé les sketchs parce que il y a quand même une différence énorme entre l'humour américain et l'humour français. Par exemple, dans Maud, le personnage principal, la femme, quoi, est tout le temps bourrée. En France, ça fait pas tellement rire, une femme qui est tout le temps bourrée, un peu pompette de temps en temps, ça fait rigoler, mais...
Donc, c'était adapté.
Et pour les Américains, ça les fait rire.
De quel feuilleton s'agissait-il ? L'Instant M à radiofrance.com, le premier arrivé à gagner. Philippe Vandel, ça fait plusieurs jours que vous m'en parlez. Oui. Il y a une question qui vous travaille, un papier qui a retenu votre attention.
Même une série de papiers. Le 8 mars, c'était la journée mondiale du droit des femmes, qu'on appelle à tort la journée de la femme. Et je suis tombé sur un article repéré par la revue de presse d'Europe 1. Natacha Polony cite le magazine scientifique Science et Vie.
Vous y apprendrez surtout que chez les patients de plus de 65 ans, être suivi par un médecin femme limite les risques de décès. Ah. Oui, je vous jure. Alors, hypothèse des chercheurs, les femmes médecins connaîtraient et appliqueraient mieux les recommandations. Voilà, ça, c'était la contribution de cette revue de presse pour la journée du 8 mars.
Merci, allez chez les médecins femmes. Polony.
Alors là, vous imaginez la panique chez les patients de plus de 65 ans suivis par un médecin homme. Mmh. Et ce 8 mars, j'ai trouvé d'innombrables articles qui révèlent que les femmes conduisent mieux que les hommes, qu'elles réfléchissent plus, etc. Toujours très positif. Mais justement, quelque chose m'a frappé, Sonia. Ces informations sont quasiment toujours à sens unique. Dans les articles, les femmes sont toujours supérieures aux hommes. Autre exemple sur RTL, Yves Calvi et sa chroniqueuse, Vanessa Schneider.
Alors Vanessa, c'est désormais officiel, les hommes sont plus idiots que les femmes, c'est la science qui le dit.
Ah oui, je vous jure, c'est pas moi, je n'oserais pas, chers auditeurs, là c'est scientifique.
Oui.
Messieurs les hommes, nous sommes plus intelligentes que vous, et oui, c'est ce qui ressort d'un article issu du vénérable British Medical Journal, consacré à la différence des sexes dans les conduites stupides.
Les conduites stupides, c'est les conduites volontairement stupides, genre marcher au bord d'un précipice ou jouer à la roulette russe. Autre étude scientifique, saluée par le mensuel Cosmo, je l'ai ici, les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Et là, je vous lis. Le psychologue néo-zélandais expert en QI James Flynn, suite à d'importantes recherches, a pu démontrer que les sujets féminins ont nettement dépassé les sujets masculins. Les chiffres ne mentent jamais, c'est un fait, oui Bruno. Cosmo se réjouit, mesdemoiselles, c'est pour vous Sonia, vous pouvez le crier haut et fort. Les femmes ont pour la première fois détrôné et doublé les hommes dans les tests de QI. Et alors, la même info se trouve aussi dans l'Express, La Croix, La Dépêche. L'article remonte à 2012. Question, comment se fait-il qu'auparavant, je n'avais jamais lu ni dans Cosmo, ni dans l'Express, ni dans La Croix, ni dans La Dépêche, ce gros titre, les hommes sont plus intelligents que les femmes? Parce que si quelqu'un se fait dépasser, c'est qu'auparavant, il était devant. On sait qu'en matière de journalisme, une information, c'est un fait qui sort de l'ordinaire. Un train en retard, une voiture qui brûle, un train qui arrive à l'heure ou les voitures qui brûlent pas, c'est pas une info. Eh bien, dans un monde idéal où la femme serait l'égale de l'homme, il y aurait parfois un article qui montre qu'elle a l'avantage et un autre article qui montre que l'homme a l'avantage. Or, il apparaît que ces infos sont publiées uniquement dans le premier cas. Et là, j'ose une hypothèse. On sent qu'il y a un sous-texte qui est celui-ci. Inconsciemment, pour la doxa, pour la presse en général, et presque pour tout le monde, les femmes sont encore inférieures aux hommes. Il est impossible de le formuler évidemment noir sur blanc, mais du coup, ce non-dit transparaît en creux comme une sorte de condescendance, de paternalisme. Je pense que c'est inconscient, parce que si c'était conscient, ce serait encore plus grave. Et je vais conclure avec un article du Nouvel Obs. Le voici, orthographe. Pourquoi les femmes sont meilleures que les hommes? Là, c'est un sondage Lops Harris Interactive. Ils ont soumis les candidats à un quiz de 8 questions qui portaient sur les difficultés de la langue française. Résultat, les femmes se classent légèrement au-dessus de la moyenne. 89% d'entre elles ont fait moins de 3 fautes, contre 86% en moyenne. Il y a seulement 3% de différence, 89-86, c'est pas grand-chose. Mais je vous lis le chapeau, le début de l'article, c'est ici. Pauvres mâles, au pluriel. Ils sont beaucoup plus nombreux que les filles à avoir écrit « Demain, j'irai avec un S chez ta mère ». Ouh, la honte. Quand 89% font moins de 3 fautes, eux échouent lamentablement. Imaginez que le résultat eût été inverse. Est-ce que Lops aurait écrit « Pauvres femelles, elles sont beaucoup plus nombreuses que les garçons à avoir écrit « Demain, j'irai avec un S chez ma mère ». Quand 89% d'entre eux font moins de 3 fautes, elles échouent lamentablement. Évidemment, non. Je rappellerai la fameuse prophétie de Françoise Giroud. La femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où à un poste important, on placera une femme incompétente.
Merci Philippe. Alors nous avons déjà une foule de bonnes réponses sur la boîte mail de l'Instant M. Notre gagnant du jour s'appelle Steve.
Manie le jour, manie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Manie.
Voilà, c'était la voix de Jean-Marc Thibault et évidemment c'était Maggie. C'était les grandes années de France 2, c'était Rosy Vart et voilà, c'était...
Oh, vraiment les grandes années, on regrette.
Les grandes années de France 2, Marthe Villalonga, etc. Ouais. Fin de ce mini Instant M, je remercie, je salue et j'embrasse Violaine Ballet, notre réalisatrice, Redouane Tella et Anne-Cécile Perrin qui m'aident à préparer les émissions. Un grand merci à tous les techniciens de France Inter qui nous pilotent chaque jour ce matin aux manettes. Julien Chabassu, à lundi les amis, monsieur le médiateur, c'est à vous.
France Inter. La séquence du médiateur, Bruno Denas.
Merci Sonia et bonjour à tous pour ce rendez-vous donc mensuel du médiateur. Et aujourd'hui, retour sur une chronique humoristique, pas vraiment drôle, retirée du site de France Inter. Et aussi pas mal de questions autour de la campagne présidentielle. Alors pour répondre à vos questions, Laurence Bloch, directrice de France Inter, Frédéric Mettezo, chef du service politique. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors commençons par cette chronique diffusée en direct vendredi dernier, chronique d'Audrey Vernon évoquant le suicide d'un cheminot syndicaliste. Cette chronique, Laurence Bloch, vous avez décidé de la retirer du site de France Inter. Évidemment, des auditeurs m'ont écrit pour s'en étonner, voire s'en offusquer. Alors, dites-nous pourquoi cette chronique devait être enlevée.
Alors, je voudrais quand même rappeler quelques éléments du contexte, parce que je crois que le contexte, c'est toujours très important. C'est une chronique qu'on diffuse toutes les semaines, le vendredi à 6h55. C'est une chronique dite d'humour, on pourrait dire d'humeur, en tout cas d'humeur et d'humour noir sur le monde de l'entreprise, sur la mondialisation de l'économie, sur les relations au travail. Et je voudrais dire que c'est une ligne éditoriale qu'Audrey Vernon nous a proposée et que nous avons absolument acceptée. Et c'est donc sa liberté que de l'exprimer à l'antenne. Mais, et là il y a un mais qui est très important, c'est que cette liberté qu'elle a ne l'autorise en aucun cas ni à s'affranchir de la loi, ni à s'affranchir de l'éthique professionnelle qu'on est en droit d'attendre tout de même d'une grande radio de service public. Ça c'est le contexte. Alors maintenant je voudrais revenir sur les faits. La chronique de la semaine dernière, elle portait sur une tragédie. C'était le suicide d'un homme. Le suicide d'un homme sur son lieu de travail. Un suicide extrêmement récent. Et dans sa chronique, l'auteur a établi un lien direct entre le suicide et le management de cet homme. Management tenu par 3 hommes dont les noms ont été cités à l'antenne. Ce qui est absolument inacceptable sur le plan juridique et ce qui est absolument inacceptable sur le plan éthique. Et je voudrais dire d'ailleurs qu'une enquête a évidemment été ouverte à cette occasion et qu'elle est en cours. Voilà, ça je crois que c'était important de revenir sur les faits.
Et puis il y a aussi donc dans cette dépublication le fait aussi de répondre, je suppose, à un souci d'humanité par rapport à un acte aussi violent qu'est un suicide.
Alors, je l'ai dit, mais le suicide d'un homme, c'est une tragédie. C'est une tragédie personnelle. C'est une tragédie pour sa famille, c'est une tragédie pour sa communauté de travail. Et il y a eu évidemment, et il y a encore une immense émotion autour de la mort de cet homme. Mais aujourd'hui, en France, on n'accuse pas sans preuve. Et je voudrais vraiment dire aux trois personnes qui ont été nommément citées combien je regrette ce que moi, personnellement, je considère comme être une faute de la chroniqueuse, mais aussi de la chaîne à leur égard. Donc, ma responsabilité, je l'assume, c'était de supprimer, de dépublier cette chronique, de l'enlever de la réécoute. Et je voudrais dire aussi, parce que je crois que c'est très important, il y a eu beaucoup d'émotions, je voudrais dire et insister sur le fait que j'ai eu l'occasion de discuter beaucoup avec Audrey Vernon depuis vendredi dernier. Et je sais qu'elle a aujourd'hui complètement réalisé qu'il y avait pour elle une, et pour la chaîne une nécessité absolue à composer entre la polémique et l'émotion. C'est très important.
Oui, tout à fait. Alors, il y a aussi plusieurs auditeurs qui s'étonnent que, et je cite Stéphane, « vous ayez laissé passer à l'antenne une telle chronique, pas du tout drôle, sans en vérifier le contenu. »
Alors, je voudrais dire à Stéphane qu'il y a, sur cette chaîne, comme dans toutes les radios d'ailleurs, plusieurs métiers. Que les éditorialistes, les chroniqueurs, les humoristes, les producteurs, c'est la liberté d'expression qui prévaut parce que ce sont des auteurs. Donc, il n'y a jamais de contrôle a priori. Il y a simplement un contrat qui s'établit entre nous, tacite, d'une liberté et d'une responsabilité. Et c'est les deux piliers du contrat qu'on a entre les producteurs, les éditorialistes, les humoristes, la chaîne, les auditeurs.
Donc c'est vraiment une liberté artistique. Alors pour quelques auditeurs, ils nous disent « vous avez cédé aux pressions de la SNCF ». Frédéric, par exemple, nous dit « vous vous couchez devant la volonté d'un de vos annonceurs ».
Alors, je voudrais que Frédéric me cite d'autres chroniques ou d'autres éditoriaux ou d'autres billets que j'ai décidé de dépublier, il n'y en a aucun. Et la seule... Quel est le mot de Frédéric ?
Vous vous couchez devant la volonté de vos annonceurs.
Alors, je voudrais dire qu'il n'y a pas d'injonction autre sur cette chaîne que celle de la loi. Et celle-là, je la respecterai jusqu'au bout.
Sans compter que, de toute façon, chez nous, il y a vraiment quasiment un mur étanche entre la publicité et tout ce qui est éditorial.
Absolument. Et Dieu merci.
Alors, une question intéressante aussi que vous êtes nombreux à vous poser, c'est pourquoi Audrey Vernon ne peut pas mettre en cause des personnes nommément citées, alors que dans les journaux de France Inter, nous dit par exemple Célia, vous citez des noms sans aucun problème. Pourquoi est-ce possible dans ce cas ? Alors, nous avons posé la question à Frédéric Rietti, la directrice des affaires juridiques de Radio France, actuellement absente de Paris, mais jointe par téléphone.
Il faut remettre cela dans le contexte qui a déjà été rappelé d'ailleurs par Laurence Bloch, hein, les deux principes fondamentaux, l'un qui est le principe de la liberté d'expression et le droit du public à être informé, qui sont inscrits dans les textes, puis le deuxième principe qui est la protection de l'individu, effectivement, qui lui aussi est protégé par les textes légaux, réglementaires et par le juge, et qui peut estimer que son honneur et sa réputation sont atteints lorsque son nom est cité dans une affaire qui fait l'actualité. Les journalistes respectent, eux, des règles précises qu'ils intègrent dans leur éthique professionnelle. D'abord, ils vérifient, ils corroborent, ils enquêtent sur les faits. C'est ce que la justice appelle l'enquête sérieuse. Ensuite, ils respectent un principe qui est essentiel, qui est le principe du contradictoire. La personne dont le nom est cité et lié à une affaire qui fait l'actualité peut exprimer son point de vue, elle ou son avocat. Ensuite, ils doivent rester mesurés dans leur propos. Ils ne doivent pas montrer d'animosité personnelle. Ils sont prudents et ils respectent bien évidemment la présomption d'innocence. Tout cela fait un vrai travail de mise en perspective, d'objectivité, qui fait la spécificité du travail des journalistes. L'humoriste, lui, est bien évidemment sur un terrain, un territoire tout à fait autre, et donc les deux façons de s'exprimer sont très essentiellement différentes.
Et donc un journaliste notamment pourra apporter des preuves d'une enquête.
Tout à fait, il a dans son travail d'enquête, il recherche, il corrobore, il recherche des preuves.
Alors parlons maintenant de la campagne présidentielle. Frédéric Mettezo, vous êtes le chef du service politique. Beaucoup d'auditeurs s'étonnent que les petits candidats, comme on les appelle, n'aient pas leur place sur France Inter.
Je dirais d'abord que tous les candidats ont eu leur place sur France Inter, puisque avant la publication de la liste officielle des candidats par le Conseil constitutionnel, on a donné la parole dans les journaux ou dans les rendez-vous d'information de France Inter à 21 candidats, candidates, aspirants ou effectivement désignés candidats. 21, sachant qu'il n'y en a que 11 à la fin. C'est pas pour se glorifier, nous sommes le média qui a donné la parole à le
au plus grand nombre de postulants à l'élection présidentielle. Donc, ils ont leur place. Après, si effectivement il s'agit de quantifier la place des candidats dits petits, moi c'est pas un mot que je reprends, on est parfaitement dans des choix journalistiques. Nous devons respecter deux choses, le pluralisme de l'information, donner la parole à tout le monde, et l'équité du temps de parole.
De l'équité, oui.
L'équité, ça ne veut pas dire qu'une minute d'un tel vaut une minute d'un tel. L'équité, c'est essayer de donner équitablement la parole. Et effectivement, il y a des candidats dont les partis ont fait très peu de voix aux dernières élections, des candidats qui n'avaient jamais pu avoir les 500 signatures, donc ils sont présumés moins représentatifs qu'un candidat du Parti Socialiste ou qu'un candidat du Parti Les Républicains dont on sait que, ou du Front National, dont on sait que les partis sont déjà très installés. Pour faire simple, je ne connais pas de maires qui ont été élus sur le parti de Jacques Cheminade, de conseillers régionaux qui ont été élus sur le parti de François Asselineau, par exemple.
Alors, il y a aussi beaucoup d'auditeurs qui m'écrivent aussi pour me dire que vous diffusez beaucoup trop de Marine Le Pen. Or, le CSA a l'air de dire le contraire. Alors, trop ou pas assez de Front National ?
Alors, trop ou pas assez, ça dépend par rapport à quoi. Est-ce que c'est par rapport à son sentiment de citoyen, par rapport à ses propres convictions ou par rapport, encore une fois, à cette équité ? Nous avons transmis des relevés de temps de parole qui ont été validés par le CSA. Le temps de parole de Marine Le Pen sur France Inter, c'est 13,8% du temps de parole général des politiques. Marine Le Pen, elle a fait de mémoire 17 ou 18% à la dernière élection présidentielle et son parti, le Front National, a fait autour de 25% aux dernières régionales. Donc, si on regarde l'expression du Front National par rapport à ce qui pèse en réalité dans notre pays, on l'a moins entendu sur France Inter. Pour quelle raison ? C'est très simple et je vais aller très vite. Nous avons du mal à faire venir des gens du Front National. Nous avons essuyé beaucoup de refus. Parfois, nous n'avons pas eu de réponse à nos demandes. Donc, effectivement, il y a peut-être le sentiment d'entendre toujours, pourquoi ne pas le dire, Florian Philippot qui, lui, est un spécialiste des médias. Marine Le Pen, en revanche, sera sur France Inter dans les semaines qui viennent en tant que candidate à la présidentielle. Peut-être que des auditeurs trouveront qu'on l'entend trop, mais il est normal d'entendre une candidate importante à la présidentielle.
Merci Frédéric Mettezo, chef du service politique. Merci également Laurence Bloch, directrice de France Inter, pour toutes ces précisions. Et puis, dans quelques instants, vous allez retrouver bien sûr Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebehi, sur les ateliers d'écriture en direct du salon de
du livre.
Évidemment.